Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Président indonésien est optimiste quant à la possibilité d'atteindre une croissance économique de 8%. Réunion de la direction du ministère de la Défense et de l'Armée nationale indonésienne, TNI 2025, discute du renforcement des équipements de défense. Ministre indonésien du Commerce remercie l'Indonésie pour avoir prouvé la discrimination de l'Union européenne contre l'huile de palme. Indonésie soutient la déclaration numérique de Bangkok pour la transformation numérique de l'ASEAN. Ministre indonésien des Forêts a pour objectif de planter des mangroves sur 1500 hectares de terre par an. Bappenas affirme que le Koweït peut être un partenaire dans l'exploitation du potentiel des énergies renouvelables. Voici le journal complet. Le président Prabowo Subianto a déclaré qu'il était de plus en plus confiant que l'objectif de croissance économique de 8% de l'Indonésie pourrait être atteint, après avoir étudié l'état actuel de l'économie nationale. Lors de sa participation à la conférence nationale pour la consolidation de l'unité, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie CADIN de l'Indonésie à Jakarta, jeudi 16 janvier, Prabowo a admis qu'il ressentait cette conviction, même s'il n'en était qu'à son 13e mois depuis son investiture en tant que président.
Makin saya mempelajari keadaan perekonomian kita.
Plus j'étudie l'état de notre économie, plus je me sens confiant, plus je suis optimiste, je crois. Je suis sûr que nous attendrons et peut-être même dépasserons la croissance de 8%. Le président a admis que de nombreux partis doutaient que l'objectif puisse être atteint dans un délai de 5 ans jusqu'en 2029. Cependant, après être entré au gouvernement et avoir été assisté par des ministres, Prabowo est optimiste quant à l'objectif de croissance économique. Afin d'atteindre cet objectif, Prabowo a rappelé que la gestion économique doit être menée de manière efficace, basée sur la logique et des calculs précis. Il a souligné que le gaspillage et les pratiques inefficaces doivent être stoppées. Le ministère de la Défense a tenu la réunion de direction du ministère de la Défense 2025 à Jakarta jeudi 16 janvier. La réunion de coordination a été suivie par le ministre de la Défense, Shafri Samsudin, et les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air. Le chef du bureau d'information de la défense du secrétariat général du ministère de la Défense, le général de brigade TNI Frega Wenas Inkiriwing, lors d'une conférence de presse avec les médias au palais du ministère de la Défense à Jakarta jeudi, a déclaré que La Réunion avait discuté du renforcement du système d'armes principales à l'autosista pour les armées terrestres, marines et aériennes. Selon Frega, le renforcement des équipements de défense est très important pour soutenir la défense de l'État unitaire de la République d'Indonésie, NKRI.
Salah satu poin yang dibicarakan di Rapim Kemhan dan TNI adalah alutsista di operasi yang dilakukan.
Lang di puang diskute dan la réunion de direction au ministère de la défense et au TNI et l'équipement de défense dans les opérations menées en Papouasie pour l'armée de terre puis dans la marine. Cela est bien sûr également lié au soutien de la défense côtière car nous, en tant que pays archipelagique, sommes projetés pour renforcer nos navires de guerre, nos frégates, puis aussi nos sous-marins et nos capteurs, y compris nos missiles et nos balles, y compris dans l'armée de l'air, pour nous aussi, pour renforcer notre puissance aérienne, les avions, à la fois les avions de transport, puis les avions de charge, les avions de contre-insurrection, bien sûr les capteurs et aussi les équipements liés à la cyberdéfense. En outre, selon le général de brigade de TNI Frega Wenas, le ministre de la Défense, Shafri Samsudin, a également demandé à l'armée de terre, à la marine et à l'armée de l'air de maintenir l'intégration et la synergie avec une posture de force optimale pour maintenir la souveraineté, la défense de la République d'Indonésie et la sécurité de la nation indonésienne. Le ministre du Commerce, Budi Santoso, a déclaré que le gouvernement indonésien saluait la décision du groupe spécial de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, sur le différend commercial sur l'huile de palme vendredi dernier, 10 janvier. Dans le rapport de décision du groupe spécial de l'OMC, le gouvernement indonésien a approuvé une discrimination de la part de l'Union européenne dans le cadre du règlement du différend devant l'organe de règlement des différends de l'OMC. Comme l'a rapporté Antara dans sa déclaration à Semarang, Jawa Central, jeudi 16 janvier, Budi a déclaré que la réponse du gouvernement indonésien était la base pour que l'Union européenne n'assise pas arbitrairement dans la mise en œuvre de politiques discriminatoires. Il espère qu'à l'avenir, d'autres pays partenaires commerciaux ne mettront pas en œuvre des politiques similaires susceptibles d'entraver le flux du commerce mondial. En général, le groupe spécial de l'OMC a déclaré que l'Union européenne avait fait preuve de discrimination en accordant un traitement moins favorable à l'huile végétale à base d'huile de palme en provenance d'Indonésie par rapport à des produits similaires en provenance de l'Union européenne tels que le colza et le tournesol. Selon Budi, l'Indonésie considère cela comme une forme de protectionnisme sous prétexte d'utiliser les questions de durabilité environnementale. L'Indonésie soutient également l'avenir numérique de l'ASEAN à travers la déclaration numérique de Bangkok adoptée dans la 5e réunion des ministres du numérique de l'ASEAN à Bangkok en Thaïlande, citée par Antara. La ministre indonésienne de la communication et du numérique, Mutia Hafid, a déclaré que la collaboration régionale est la clé du succès de la transformation numérique de l'ASEAN. Dans sa déclaration à Jakarta, jeudi 16 janvier, Mutia a déclaré que les avantages de la transformation numérique doivent être ressentis par toutes les couches de la société, y compris celles des zones reculées. Elle a déclaré que cette déclaration reflète l'engagement collectif des pays de l'ASEAN à construire une région numérique sûre, innovante et inclusive. La déclaration numérique de Bangkok comprend un certain nombre d'étapes stratégiques telles que le renforcement de la coopération régionale pour lutter contre la fraude en ligne, le développement de la gouvernance d'intelligence artificielle IA et l'amélioration de l'accès à Internet de qualité dans toute la région. Mutia a ajouté que cette déclaration constitue une base stratégique pour l'avenir numérique de l'ASEAN tout en renforçant la coopération entre les pays. Le ministre indonésien des Forêts, Raja Juli Antoni, a pour objectif de planter des plants de mangrove pour couvrir une superficie de 150 hectares en Nangnang. Il a fait cette déclaration après avoir planté des plants de mangrove au parc de l'Arboretum de mangrove à Denpasar, à Bali, jeudi, cité par Antara. Cette année, le ministère des Forêts se concentre sur quatre provinces, à savoir le Kalimantan du Nord, Riau, le Sumatra du Nord et les îles Riau, où ces quatre régions possèdent de grandes mangroves, mais la croissance est encore rare et modérée. Le ministre des Forêts a déclaré qu'en plus de lutter contre l'abrasion, d'accroître la biodiversité et d'absorber le carbone, les mangroves offrent également des opportunités économiques, à savoir le tourisme. Le ministre Raja Juli estime que le tourisme dans les mangroves ne nuirait pas à l'écosystème, car la communauté locale qui les a protégés de plus debout les gère directement et en tire des bénéfices économiques. Au parc de l'arboretum des mangroves, visité par le ministre des Forêts Raja Juli, un terrain a été préparé sur une superficie totale de 30 hectares, dont certains sont actuellement plantés de 12 types de plantes de mangroves. Le ministre de la Planification et du Développement national, en tant que chef de l'Agence nationale de planification et du développement, PPN Bappenas, Rahmat Pambudi, a déclaré que le COVID peut être un partenaire stratégique dans l'utilisation du potentiel des énergies renouvelables en Indonésie. C'est ce qu'a déclaré Rahmat lors de la visite de l'ambassadrice d'Indonésie au Koweït, Lena Mariana Mukti, à Jakarta, jeudi 16 janvier, cité par Antara. Rahmat a déclaré que cette opportunité de coopération joue un rôle important dans l'accélération de la transition énergétique en Indonésie. Selon lui, cela est conforme à l'engagement mondial de réduire les émissions de carbone et de soutenir le développement vert convenu par les deux pays. Le ministère de la Planification du Développement National, de l'Agence de Planification du Développement National, PPN Bappenas, est optimiste quant au fait que la coopération entre l'Indonésie et le COVID peut apporter des avantages significatifs en encourageant la transformation dans divers secteurs stratégiques. Le soutien du COVID à divers programmes stratégiques de l'Indonésie, tels que le développement de la capitale Nusantara, devrait constituer une véritable étape vers la réalisation de la vision de l'Indonésie dorée 2045. C'est Zurita, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Oh, Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui avec Maudry. Cette fois, je vais vous présenter PME contribue à atteindre l'objectif de croissance économique de 8%. Chers auditeurs, le gouvernement du président Prabowo Subianto vise une croissance économique de 8% au cours de ses 5 années au pouvoir. Cet objectif devrait être atteint avec le soutien des micro, petites et moyennes entreprises. Selon le ministre des micro, petites et moyennes entreprises MPME, Maman Abdourahmane, la croissance des MPME peut aider à atteindre les objectifs de croissance économique fixés par le président. Le ministre Maman Abdourahmane a même décrit les entrepreneurs des MPME comme de petites bougies allumées dans tous les coins du pays. Selon lui, une petite bougie avec une grande lumière est une représentation cosmologique des MPME, qui, bien que de petite taille, ont un rôle et un impact significatif sur l'économie indonésienne. Le ministre Maman Abdourahmane a également souligné que la tâche actuelle consiste à créer un réseau de lumière qui suscite l'espoir, crée l'innovation et fait tourner les roues de l'économie. Afin de renforcer le réseau et accroître la connectivité entre les acteurs commerciaux de ce secteur et les grandes entreprises, le gouvernement prévoit de créer une société holding ou une société mère pour les MPME, à savoir les grands acteurs commerciaux. Grâce à cette méthode, on espère que le nombre d'MPME qui deviennent partenaires de grands acteurs commerciaux augmentera. Car actuellement, le partenariat entre les deux ne représente qu'environ 7% du nombre total d'MPME qui atteint des dizaines de millions. En plus d'avoir d'importants partenaires commerciaux, on espère que les MPME pourront également jouer un rôle et s'impliquer activement dans la chaîne d'approvisionnement. On espère que la qualité de la production des MPME en Indonésie s'améliorera également, parce que les acteurs des MPME obtiendront également une certification afin que la qualité puisse être maintenue. Avec une qualité maintenue et un marketing actif, il n'est pas impossible que les micro, petites et moyennes entreprises contribuent de manière significative à la réalisation de l'objectif de croissance économique de 8%. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Le commentaire.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire du jeudi. Je commence avec les événements du 17 janvier 1948. L'Indonésie et les Pays-Bas ont signé l'accord de Ranville. L'accord de Ranville était un accord entre l'Indonésie et les Pays-Bas, signé à bord du navire de guerre américain USS Ranville, qui était ancré au port de Tanjung Priok, Jakarta. Cet accord a été facilité par l'ONU, par l'intermédiaire de la commission tripartite composée de représentants des États-Unis, de l'Australie et de la Belgique. L'objectif de l'accord de Ranville était de mettre fin au combat et d'établir un cessez-le-feu entre les deux parties, en établissant les limites d'un statu quo plus avantageux pour les Pays-Bas. Mais les Pays-Bas ont violé l'accord en lançant la deuxième agression militaire néerlandaise en décembre 1948. Passons maintenant aux événements de l'opération Tempête du Désert. La guerre de Golfe, connue sous le nom d'opération Tempête du Désert, a été déclenchée par l'invasion du Koweït par l'Irak le 2 août 1990. À la suite de cette invasion, le Koweït a demandé l'aide des États-Unis. L'opération menée par les États-Unis a été officiellement annoncée à la Maison-Blanche. Cette opération a été menée par une coalition internationale sous le commandement du général Norman Schwarzkopf des États-Unis, impliquant 32 pays, y compris l'Angleterre, l'Égypte, la France, l'Arabie Saoudite et le Koweït. Le 3 août 1990, le Conseil de sécurité de l'ONU a exhorté l'Irak à retirer ses troupes du Koweït, mais l'Irak a refusé. Le Conseil de sécurité a ensuite donné à l'Irak une date limite du 15 janvier 1991 pour retirer ses troupes. Parce que l'Irak n'a pas répondu à ses exigences, le 17 janvier 1991, les forces alliées ont lancé une attaque aérienne contre les forces irakiennes, connue sous le nom d'opération Tempête du désert. Cette attaque a réussi à affaiblir la force militaire de l'Irak. Le 17 janvier 1995, le tremblement de terre de Kobe au Japon s'est produit dans la matinée avec une magnitude de 7,3. L'épicentre du tremblement de terre était situé au nord de l'île d'Awaji, dans la partie sud de la préfecture de Hyogo. Le séisme, qui a duré environ 20 secondes, a provoqué de graves dégâts dans la ville de Kobe, située à environ 20 km de l'épicentre. Ce séisme a causé la mort de 6 433 personnes. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
Dan kini kau datang membawa Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie, dont le titre est « Gouvernement indonésien renforce la collaboration internationale pour accroître les exportations des produits de la pêche vers les États-Unis ». Le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, met en place une collaboration internationale pour élargir le marché du poisson indonésien de qualité aux États-Unis. Cette mesure vise également à accroître les exportations de produits de la pêche et à renforcer la position de l'Indonésie sur le marché mondial. Cité par l'agence de presse Antara jeudi 16 janvier, la chef de l'agence de contrôle et de surveillance de la qualité des produits de la mer et de la pêche, Ishartini, a déclaré que son parti, en collaboration avec l'ambassade des États-Unis, avait lancé le programme Select USA destiné aux Indonésiens. Les acteurs du secteur de la pêche qui souhaitent atteindre le marché de la pêche aux États-Unis. Selon Ishartini, les acteurs commerciaux ne s'appuient pas seulement sur le réseau d'affaires, mais obtiennent également des informations sur la demande de produits de la pêche dans chaque État des États-Unis. Il existe ensuite des informations réglementaires régissant la facilité de faire des affaires dans chaque État, ainsi que des options spéciales ou des mesures incitatives pour les exportateurs de produits de la pêche indonésiens qui entreront sur le marché dans un État particulier. D'autres avantages comprennent des informations sur les facilités d'incitation fiscale et les permis pour les exportateurs qui ouvriront des représentants et ou construiront des installations d'entreposage, entrepôts ou chambres froides pour faciliter la chaîne d'approvisionnement des produits de la pêche dans certains États des États-Unis, ainsi que divers avantages de diverses politiques de l'État. En outre, Ishartini a également déclaré qu'il s'agissait de quelque chose de nouveau et que c'était la première fois que son parti collaborait avec le ministère américain du commerce. Auparavant, le ministère des Affaires maritimes et de la pêche entretenait de bonnes relations de coopération avec la FDA américaine et avait signé l'engagement de confidentialité depuis 2022. Ishartini a déclaré qu'Indonésie est l'un des pays reconnus pour la mise en œuvre des zones internationales d'assurance qualité des produits de la pêche, y compris les États-Unis. Il a déclaré qu'actuellement, le nombre d'unités de transformation de poissons qui ont été enregistrées auprès de la FDA américaine, autorité compétente en matière de qualité aux États-Unis, et peuvent exporter vers les États-Unis est de 243 unités. Selon elle, les États-Unis, qui comptent 50 États et une population de plus de 300 millions d'habitants, selon les calculs du gouvernement américain en 2024, consomment en moyenne 19,8 livres de fruits de mer par habitant, soit 8,98 kg. Dans le même temps, la demande en aliments à base de poissons en Amérique montre également une tendance à la hausse d'année en année. Ishartini expliquait que la consommation de crevettes aux États-Unis seulement est estimée à 1,27 milliard de livres, soit plus de 500 millions de kilogrammes par an. Pendant ce temps, selon les données de l'Agence centrale de statistiques, BPS, jusqu'en novembre 2024, les États-Unis restent le principal pays de destination des exportations de produits de la pêche indonésien, avec une valeur d'exportation de 1,72 milliard de dollars américains. Les trois principaux produits d'exportation de l'Indonésie vers l'Amérique sont dominés par les crevettes, le crabe et le thon. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers auditeurs, maintenant c'est le temps pour l'émission de magazine culturel avec Maudry. Et cette fois, je vais vous présenter le tofu Chibuntu. Récemment, l'Office provincial du tourisme et de la culture de Java occidental a désigné 42 œuvres culturelles comme patrimoine culturel immatériel. L'un d'eux est Tahu Chibuntu ou Tofu Chibuntu dans la ville de Bandung. Cette décision a été prise dans le but de préserver les arts et la culture traditionnelle de la province de Java occidental. C'est pour cela que cette fois-ci, nous avons présenté Tofu Chibuntu ou Tahu Chibuntu, l'une des 42 œuvres culturelles proposées comme patrimoine culturel immatériel. Tahu Chibuntu est une spécialité culinaire de la ville de Bandung. Comme son nom l'indique, ce plat culinaire est produit dans le village de Chibuntu. Ce tofu a une couleur jaunâtre distinctive, avec un goût savoureux et une texture douce. Sojetar Tahu Chibuntu, ou Tofu Chibuntu, a été produit à l'origine par un Chinois nommé Baba Mpe, qui employait des Chibuntu locaux. Dans les années 1970, le commerce du tofu a commencé à se développer à Chibuntu et c'est devenu le principal moyen de subsistance de la communauté locale. Tahu Chibuntu est produit à partir de matières premières, de qualité et de processus strictement contrôlés. L'eau utilisée pour le tofu Chibuntu provient d'eau artésienne laissée à décanter pendant la nuit. Pour le goût et la couleur, on utilise uniquement du curcuma comme colorant naturel et du sel pour le goût savoureux. Il n'est pas étonnant que le tofu Chibuntu ait un goût si délicieux, savoureux et pas dur. Chers amis, si vous visitez la ville de Bandung, essayez d'acheter du tahu Chibuntu en souvenir. Si vous êtes curieux de connaître le processus de production du tofu, vous pouvez visiter le village touristique de tofu de Chibuntu Babakan à Bandung. Dans cet endroit, les gérants vous raconteront des histoires et des explications historiques sur les origines de la région, célèbre pour sa production de tofu sur place. Vous pourrez déguster à votre guise des plats de tofu, comme le takeda, ses sauces soja épicées ou poivrées. Tofu. Craquelant de tofu, tofu et l'eau et les autres. Pour changer de tarse, c'est tout, le magazine culturel.
Bye. Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Chers auditeurs, on continue maintenant avec le programme de Warna-Warni, l'Indonésie en couleur. Et cette fois, avec Maudry, je vais vous présenter des hôtels indonésiens figurent sur la liste des meilleurs hôtels du monde de 2025 de TripAdvisor. Sajoritar, deux hôtels de Bali figurent sur la liste des meilleurs hôtels du monde pour 2025 de TripAdvisor. Deux hôtels à Bali, à savoir la Diwana Sueta Hotel et le Padma Resort Ubud, figure dans la liste des meilleurs hôtels du monde en 2025 selon TripAdvisor, la plus grande plateforme de guide de voyage au monde. Selon la page officielle de TripAdvisor, Diwana Sueta, dans la région de Gianyar, Bali, offrirait une atmosphère paisible. Padma Resort Ubud, situé dans la magnifique région d'Ubud à Bali, a remporté ce prix prestigieux grâce à la beauté naturelle de son environnement et aux services exceptionnels qu'il offre. Se jeter la vue sur les rizières en terrasse verdoyante et les installations luxueuses font du Padma Resort l'endroit idéal pour échapper à la routine. Votre espérance de séjour sera un souvenir inoubliable. Situé au cœur d'Ubud, cet hôtel offre une atmosphère tranquille avec un design qui mélange la culture balinaise et le confort moderne. Le Padma Resort Ubud à Ubud est considéré comme un endroit idéal pour se détendre dans un environnement paisible et propose une variété d'activités amusantes. Le complexe possède l'une des piscines à débordement les plus incroyables que nous ayons jamais vues, surplombant un paysage luxuriant selon les critiques sur TripAdvisor. Au Padma Resort Ubud, les touristes peuvent pratiquer des activités telles que des cours de fitness, des balades à vélo, la randonnée en spa, un sauna, des repas et explorer les environs. Chers amis, on dit qu'Adiwana Sueta, dans la région de Gianyar Bali, offre une atmosphère paisible. Dans cet hôtel, les clients peuvent se détendre dans la salle de yoga, se faire dorloter au spa ou se baigner dans la piscine qui donne directement sur la jungle luxuriante. Grâce à cette reconnaissance, Bali prouve une fois de plus que cette île a effectivement tout pour plaire. La beauté naturelle a l'hébergement extraordinaire. Alors pour ceux d'entre vous qui planifient des vacances l'année prochaine, ne manquez pas l'occasion de découvrir la particularité de ces deux hôtels qui ont été reconnus dans le monde entier. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Warna-warni, l'Indonésie en couleur.
Sang Hujan hujan tuh datang basahi bumi yang kering. Merpati pembawa berita hadir dan tersenyum. Pesan damai terjaga di paruh untuk aku, kamu, dan kita. Serita terbawa angin bahagia, berdiri dan genggamlah harapan. Ceramah nunggumu bersama mimpi dan cinta yang setia menemani langkahmu. Tak mungkin terhenti, kau siap diuji, kau generasi pemberani. Jika rintangan menantimu, mencoba pudarkan semangatmu, ingat kau insan terbaik. Karena kau telah tercipta untuk berjuang. Ceramah nunggumu bersama mimpi dan cinta yang setia menemani langkahmu. Tak mungkin terhenti, kau siap diuji, kau generasi pemberani. Ceramah nunggumu bersama mimpi dan cinta yang setia menemani langkahmu. Tak mungkin terhenti, kau siap diuji, kau
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, Parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme kroncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de magazine musical avec moi, Audrey. Cette fois, je vais vous présenter une chanson pop Bugis du sud de Sulawesi qui attire actuellement l'attention de nombreuses personnes. C'est vraiment. La chanson s'intitule Na Ati Mopoji. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ce qui signifie à cause du cœur qui aime. Cette belle œuvre a été écrite par Abi Rafdi et a captivé des millions de cœurs. Comme en témoignent les 10 millions de vues sur le compte YouTube de la chaîne Abi Rafdi depuis sa sortie l'année dernière. Les paroles de Na Ati Mopoji décrivent une histoire d'amour pleine d'engagement entre deux personnes qui promettent d'être toujours ensemble. Son message profond nous enseigne la sincérité de l'acceptation des défauts, l'ouverture de cœur pour pardonner, le pouvoir de l'amour qui lie les âmes dans une promesse éternelle. Bonjour, Jétard, voici la chanson intitulée Na Ati Mopoji, chantée par Abi Rafdi. Bonne écoute.
Sibali mopoji egana cerita iloloi medina riona ramane ipirasai ajana kasto sisalari nasaba masuk di niati
namuni ma pedihnya waktu.
chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.